Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour ce troisième numéro de J'ai rendez-vous avec vous. En ce mois de janvier 2026, j'ai le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel Étienne, accompagné du commandant Thierry, réserviste opérationnel, et de Madame Ophélie Expraya, réserviste citoyenne. Leur point commun ? Être rattaché à la délégation militaire départementale de la Côte d'Or, la DMD. Dans le cadre du dispositif Classe Défense, que nous évoquerons également dans cette émission, je reçois enfin le responsable de la Classe Défense du lycée Les Arcades, M. Philippe Despine. Dans un contexte international marqué par une situation géopolitique pour le moins perturbée, il me semble important de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent pour défendre notre pays. Cette émission veut mettre en avant les valeurs fortes d'engagement, de citoyenneté et de dévouement au service de nos concitoyens. Coup de projecteur à présent sur ces belles et nobles actions. Bonsoir madame, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Shalom.
Bonsoir.
Et si nous commencions déjà par parler de vous et de vos parcours respectifs. Et à vous l'honneur, mon colonel, vous êtes né en 1971 en Charente-Maritime, marié et père de 6 enfants. Vous étiez jusqu'à peu délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or. Et vous y travaillez aujourd'hui encore, désormais sous le statut de réserviste opérationnel. Vous êtes notamment le monsieur classe défense du département. Pouvez-vous nous raconter votre parcours, mon cher colonel ?
Avec plaisir, j'ai un cursus assez classique, somme toute, pour un officier de l'armée de terre. Après un baccalauréat littéraire, j'ai préparé le concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pendant 2 années en classe préparatoire aux grandes écoles. À l'issue de mes années à Saint-Cyr, je me suis spécialisé dans la logistique militaire pendant 1 an en école d'application à Tours. En 1995, jeune lieutenant, j'ai choisi de servir dans un régiment de commandement et de soutien à Nîmes. L'armée française connaissait encore la conscription à l'époque. C'est donc avec des engagés mais aussi des appelés volontaires que j'ai effectué mes premières opérations extérieures en Bosnie, en Macédoine ou encore au Kosovo. J'ai ensuite gravi les différents échelons, enchaîné les mutations. Châteauroux, les écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan à nouveau, cette fois-ci comme instructeur. Aussonne, Paris, Aussonne à nouveau, Montlhéry, puis Dijon. J'ai suivi pendant 3 ans en parallèle de mon métier militaire une scolarité à l'école supérieure des transports à Paris pour gagner en compétences techniques. J'ai connu beaucoup d'unités opérationnelles et de nombreuses opérations intérieures ou extérieures, ces dernières surtout en Afrique. Surtout le spectre des missions de nos armées, humanitaire, interposition, maintien de la paix, lutte contre le terrorisme. Depuis le 1er décembre, je sers comme réserviste au sein du 511e régiment du train basé à Aussonne.
Merci beaucoup, mon colonel. Si on devait expliquer à nos auditrices et nos auditeurs, en quelques mots et de façon très simple, comment devient-on colonel ?
C'est l'acheminement d'un long parcours avec des grades successifs. Pour moi, j'ai commencé comme officier, voilà, donc sans tous les détailler, enfin rapidement, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, puis lieutenant-colonel. Avec des marquants forts dans une carrière que sont notamment les temps de commandement. Comme jeune lieutenant, vous commandez ce qu'on appelle une section, de l'ordre d'une 30aine de personnes. Comme capitaine, un peu plus tard dans votre carrière, de l'ordre de 150 personnes. Voilà. Et après, avec le grade de colonel, quand vous commandez un régiment, vous commandez à peu près 1 millier d'hommes. Après, on suit sur le généralat et des effectifs, bien entendu, encore plus importants.
Très bien, super. Merci beaucoup. Merci, mon colonel. Le principe de cette émission est de laisser les invités choisir les morceaux musicaux qui accompagne l'interview. Mon colonel, qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi en quelques mots ?
Alors j'ai beaucoup hésité parce que j'ai beaucoup de chansons qui parlent à mon cœur, mais j'ai fini par choisir « Il faudra » de Florent Pagny, c'est le dernier titre de son dernier album. Je trouve que c'est une dernière grande voix de la chanson française. Je partage ses thèmes de prédilection, notamment le bien très précieux qu'est notre liberté. J'aime sa simplicité, j'aime sa liberté de parole. Au-delà du chanteur, cette chanson a une résonance particulière pour moi car elle reflète une vraie évolution personnelle. Comme soldat et comme homme, j'ai longtemps donné une priorité totale et absolue au courage, à la volonté. Avec le temps, j'ai découvert que le courage n'est rien s'il n'est pas adossé à l'amour qui le structure, lui donne sens, le magnifie. J'ai pas encore fait complètement le tour de cette question, mais elle m'habite. Cette chanson porte au pinacle le courage, avant de le voir dépassé par l'amour dans les deux dernières phrases, tandis que la musique s'efface, elle me parle profondément.
Il faudra du courage, la foi, la volonté de tourner cette page, mais ne rien oublier de ces grandes blessures qu'on a su partager, puis trouver un futur pour tout recommencer. Rechercher la chaleur, les couleurs d'un été, comme Vincent peint le cœur des lavandes et du blé. Il faudra du courage, mais beaucoup plus que ça, et beaucoup plus que ça. Il faudra des secondes et une éternité pour retrouver le monde comme on l'avait aimé avant le froid si grand, des éternelles peines quand on suivait les vents et le chant des sirènes. Prendre un nouveau départ, voir la vie bien en face, comme Léo voit l'espoir avec le temps qui passe. Il faudra du courage, mais beaucoup plus que ça, oui, beaucoup plus que ça. Il faudra l'insouciance d'un horizon nouveau, retrouver l'innocence, réinventer le beau, se souvenir d'un ciel, d'une main, d'une étoile et de tout l'essentiel qui rend nos jours moins pâles. Vivre plus haut que soi, plus haut que les absences, comme la voix de Maria fait chanter les silences. Il faudra du courage, mais beaucoup plus que ça, oui, beaucoup plus que ça. Il faudra de l'amour.
J'offre à présent la parole au commandant Thierry avec la même question. Commandant Thierry, quel est votre parcours ?
Eh bien, tout comme le colonel, j'ai 54 ans, je suis marié, mais je n'ai que deux grandes filles. La première, l'aînée, termine son master en marketing digital et la seconde vient de commencer une école d'ingénieur en biotechnologie. Dans la vie professionnelle, je suis responsable support utilisateur en informatique dans un laboratoire de recherche sur le campus de l'Université Bourgogne-Europe à Dijon. Mais en dehors du travail, je suis très investi auprès de la Fédération française de cyclotourisme en tant que délégué sécurité pour la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi responsable formation pour le département de la Côte d'Or. J'arrive quand même à trouver du temps pour rouler toute l'année, par tous les temps. Je fais environ 8000 km par an accompagné de mon épouse ces trois dernières années.
Là, on va faire une petit rebondissement, mon commandant, commandant Thierry. Oui, vous êtes un passionné de cyclotourisme. Comment vous est venue cette passion du cyclotourisme ?
Ah, c'est le fait d'être proche de la nature, ça m'a toujours intéressé. Donc j'ai commencé par du VTT, mais depuis 10 ans, je fais de la route, ce qui me permet d'aller de faire des défis en cyclo-montagnarde et de découvrir d'autres régions.
Et vous participez à des compétitions ?
Non, c'est sans chronomètre, c'est juste de la passion.
Et du plaisir. Et je crois avoir lu que vous associez votre épouse aussi dans cette aventure.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose que je partage depuis 3 ans maintenant. Et c'est vrai que ça permet de retisser des liens dans notre couple.
Je vous remercie. Alors, les femmes sont à l'honneur aussi ce soir. Et Madame Expraya, quelle est la nature de votre parcours professionnel ?
Alors, donc, j'ai 33 ans, j'ai grandi à Lyon et je suis aujourd'hui directrice d'une fédération sur Dijon. Mais j'ai un parcours un peu atypique, alors je pense que ça fait une force. Je suis fille d'entrepreneur. J'ai fait un petit passage dans le monde de la gastronomie française avant de m'orienter vers le monde de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement des dirigeants. J'ai été déléguée générale d'un syndicat patronal interprofessionnel pendant 6 ans dans l'Indre, à Châteauroux. En région centre, avant d'atterrir en Côte d'Or par amour des paysages viticoles. Ça fait 3 ans et demi maintenant que j'apporte mon soutien aux professionnels dijonnais dans leur activité et le développement de leur notoriété. Voilà mon parcours. J'ai en moi cet engagement de venir en aide autant que possible et ça se traduit par mon emploi. La force du collectif, c'est pour moi sans doute l'expression que je préfère. Avancer ensemble, tomber ensemble et se relever ensemble. Je pars du principe qu'on a tous un rôle à jouer dans ce monde économique un peu ébranlé et que chacun peut le faire.
Donc c'est une forme d'altruisme, n'est-ce pas ?
Oui, quelque part. Alors certains diront que j'ai un grand cœur. J'ai cette bienveillance et cette empathie pour aider les autres et contribuer à leur bien-être et voilà, à ce que leur vie soit plus douce, à ce que leur activité soit florissante. C'est un peu ce qui m'anime dans mon quotidien, tout à fait.
Et dans votre parcours, vous avez évoqué un passage par la gastronomie. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ?
Alors oui, passionnée depuis toute petite de pâtisserie, quand il a été question de se remettre en question sur un parcours un peu atypique, un peu ébranlé, parce que quand on sort du baccalauréat, on nous dit « vous devez choisir votre avenir, mais vous ne savez pas forcément trop, sans réelle passion, vers quoi vous orienter », j'en avais une, c'était la pâtisserie depuis toute petite, et je me suis dit « pourquoi pas ». L'avantage d'être lyonnaise, c'est qu'on peut viser haut en termes d'école de gastronomie. Donc, j'ai intégré l'Institut Paul Bocuse il y a quelques années maintenant. C'est un monde passionnant, mais c'est aussi un monde difficile. Un monde où malheureusement, les femmes ont du mal parfois à trouver leur place ou en tout cas à être acceptées. Et j'ai choisi de m'émanciper autrement et j'ai appris beaucoup. J'ai grandi, on apprend la force du travail. Quand on travaille 70 heures par semaine, on n'a pas peur. Mais j'ai choisi d'exercer un emploi où je m'accomplisse plus et où on a plus, je pense, de reconnaissance.
Merci beaucoup pour ce témoignage fort intéressant. Terminons les présentations d'usage par M. Philippe Despines, professeur de philosophie au lycée Les Arcades et responsable de la classe défense du même établissement. Nous en parlerons un petit peu plus tard. Monsieur Despines, qu'avez-vous fait de votre vie professionnelle ?
Beaucoup de choses, et entre autres en complément donc, de la fonction de professeur de philosophie. Je suis aussi réserviste citoyen pour la gendarmerie nationale depuis 14 ans. Ma plus grande contribution actuellement en tant que réserviste citoyen, c'est de faire connaître l'histoire de la gendarmerie à une vingtaine, voire une trentaine de cadets chaque année depuis maintenant 3 ans. Alors c'est une histoire qui remonte bien au-delà de la Révolution française, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement, et je fais aussi partie de ceux qui ont connu le service national en 1994, en 1995. En fait, c'est le hasard d'une rencontre qui m'a ouvert les portes de cet engagement au sein de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale. Alors pour terminer, en quelques mots, comme vous l'avez rappelé, je suis professeur de philosophie, d'une spécialité récente dite humanité, littérature et philosophie, communément appelée HLP, et de culture générale pour une classe de BTS. Je suis marié, père de 2 enfants. L'un est étudiant à l'école de santé des armées de Lyon et le second projette de devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée. Il est en classe de terminale et va passer son baccalauréat donc à la fin de l'année.
Et alors, Philippe Despines, comment en vient-on à la philosophie ? Pourquoi avez-vous choisi cette matière, puisque vous êtes enseignant ? En quelques mots.
Un projet de recherche et de compréhension sur une histoire familiale.
Ah.
Voilà. Et donc j'avais besoin de prendre la mesure d'un héritage familial et j'ai pensé que la philosophie était plus à même de donner le sens de tout ça.
Et qu'est-ce que la philosophie apporte à la vie pour vous ?
Alors, tout dépend de l'âge que l'on a, tout dépend de la période que l'on traverse, mais je pense que d'une manière générale et au vu de mon grand âge, peut-être un certain sens de la sagesse et une prise de recul.
La sagesse, oui, bien sûr, mais bien sûr. Nous sommes là pour en parler ce soir. Mon commandant Thierry, vous avez choisi Brothers in Arms des Dire Straits, et c'est votre tour pour votre choix musical. Pourquoi avoir choisi ce morceau ?
Ah, j'ai choisi ce morceau parce que pour moi, c'est une chanson qui parle profondément de fraternité, d'engagement et du prix humain des conflits. C'est une chanson qui rappelle que derrière l'uniforme, il y a des femmes, il y a des hommes, avec leurs doutes, leurs peurs, mais surtout un lien très fort entre ceux qui servent ensemble. Et sur le terrain, on ne se bat jamais seul, on se tient les uns pour les autres. Je voulais partager ce morceau avec les auditeurs de Radio Shalom parce qu'il invite aussi à la réflexion, à la mémoire et à l'espoir qu'un jour ces armes n'auront plus à parler. En attendant, elle rend hommage à ceux qui s'engagent, parfois dans le silence, pour protéger les autres. Pour moi, c'est important.
Et on écoute Dire Straits.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. Fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Thank you.
let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Mon colonel, vous avez commandé en second pendant 7 ans la délégation militaire départementale. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement ?
Avec grand plaisir, je vais essayer de rester concis. La délégation militaire départementale assure la représentation des 3 armées auprès des autorités civiles, mais aussi de l'ensemble des habitants du département. Elle traite de nombreuses questions transverses et permet aux unités militaires côte-doriennes de se concentrer sur leur mission opérationnelle. Elle a 3 missions principales. La première est opérationnelle. Le délégué militaire départemental conseille le préfet en cas de crise grave qui nécessiterait l'emploi de moyens militaires en complément des moyens civils et il coordonne leur action. Il assure également le commandement quotidien des soldats de l'opération Sentinelle basée à Dijon. Ces soldats issus de régiments de toute la France participent à la sécurité de nos concitoyens dans l'ensemble du département. La deuxième mission est dite de rayonnement. Elle consiste à représenter les armées dans l'ensemble des champs sociétaux, à promouvoir l'esprit de défense, à entretenir le lien multiséculaire entre l'armée et la nation. Cette mission revêt une importance particulière dans le contexte géopolitique actuel. Les classes défense sur lesquelles nous reviendrons en sont une manifestation. Enfin, la délégation, aux côtés d'autres opérateurs, a une mission mémorielle conséquente. Elle organise notamment l'ensemble des cérémonies militaires de la garnison de Dijon, en concertation avec la préfecture et la ville, soutient et interagit avec les associations du monde combattant et de mémoire. Malgré ses vastes missions, la DMD est une toute petite unité. Elle ne compte que 4 cadres d'actifs et ne saurait fonctionner sans le concours actif de ses réservistes. Ces réservistes sont de 2 types. En premier lieu, les réservistes opérationnels. Sous statut militaire, rien ne les distingue de leurs camarades d'actifs, hormis la nature discontinue de leur engagement. Ils renforcent la DMD en moyenne 30 jours par an et sont vitaux pour son bon fonctionnement. Ils sont 15. À leur côté, les réservistes citoyens. Sous statut civil, leur engagement est purement bénévole. Ils sont les ambassadeurs de nos armées dans la société et mettent leur temps, leur talent, leur énergie pour accompagner les projets de rayonnement de la DMD. Je peux citer pour exemple un concert caritatif organisé à Chenôve en 2024 au profit des blessés des armées, la 30aine de réservistes citoyens que compte la DMD a assuré l'ensemble de la logistique de cette opération. Madame Exbraya y a joué un rôle très important et y reviendra sans doute.
Vous m'avez ôté les mots de la bouche, j'allais le dire d'ailleurs.
Enfin, la DMD s'appuie également sur de nombreux partenaires, institutionnels ou privés. Parmi ceux-ci, elle entretient un lien particulier avec l'éducation nationale, accompagnant l'enseignement de défense et l'esprit de citoyenneté. La présence de M. Despine est donc parfaitement opportune ce soir.
Merci beaucoup, mon colonel. Vous évoquez le rôle essentiel des réservistes, effectivement, dans le fonctionnement de la délégation. Commandant Thierry, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet, puisque vous êtes réserviste opérationnel ?
Bien volontiers. Concrètement, les réservistes à la délégation participent à la préparation, à l'anticipation, à la conduite des missions en situation de crise ou lors d'événements majeurs sur le département de la Côte d'Or. Notre force, c'est notre double expertise, à la fois civile et militaire. Elle nous permet de comprendre rapidement les enjeux du territoire et de travailler efficacement avec les services de l'État, mais aussi avec les collectivités ou les forces de sécurité, et ainsi traduire les besoins opérationnels en actions concrètes sur le terrain. Comme nous sommes ancrés dans le tissu du département, nous facilitons les échanges et contribuons au rayonnement des armées. Enfin, il faut souligner que nous, les réservistes opérationnels, on est avant tout des citoyens engagés, qui se forment tout au long de l'année et qui se préparent sans savoir exactement quand et surtout où leur expertise, notre expertise sera sollicitée. C'est un peu frustrant, mais c'est notre quotidien, c'est le travail de l'ombre.
J'ai cru comprendre en lisant votre CV que vous aviez choisi de vous focaliser autour du soin dans votre mission de réserviste, puisque vous avez préparé et obtenu le brevet opérationnel des élèves médecins d'active en cinquième année. Et puis vous avez aussi préparé le FRAOS qui prépare les réservistes du service de santé des armées avant leur départ en opération extérieure. Pourquoi vous intéressez autant aux soins ?
Parce que pour moi, je ne suis pas un combattant dans l'âme, je suis plutôt dans la partie logistique et dans la relève de nos blessés. Donc c'est vrai que j'ai une première partie de réserviste opérationnel au sein du service de santé des armées. Et j'ai rejoint la délégation il y a 6 ans maintenant. Mais c'est vrai que j'ai aussi fait mon service militaire et je l'ai fait dans le cadre du service de santé des armées en tant officier du corps technique administratif. Et je m'occupais justement de toute la partie logistique autour d'un hôpital mobile de campagne.
Merci beaucoup, mon commandant. Et aux côtés des réservistes opérationnels, nous avons les réservistes citoyens, qui sont également un renfort précieux. Alors, Madame Ex-Braya, ici présente, en est la meilleure illustration. Et nous allons écouter votre témoignage, Madame Ex-Braya.
Alors, pour répondre à la question, pourquoi la réserve citoyenne et qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? C'est un engagement purement bénévole. De personnes totalement lambda, de civils qui ont envie de contribuer à cette représentation de l'armée, faire rayonner ce qu'est l'esprit de défense, avec certainement des sensibilités, et des attraits différents. Moi, personnellement, j'ai la philosophie de penser que l'on a tous un rôle à jouer, que ce que nous faisons ne doit pas servir nos intérêts personnels, mais ceux de la cause. En tout cas, c'est ce qui m'anime dans mon travail et dans ma vie de tous les jours, c'est contribuer, soutenir, aider et accompagner. Et je crois que c'est un trait profond de ma personnalité. La transition est donc toute trouvée sur pourquoi la réserve citoyenne, en tout cas me concernant. Alors, je ne crois qu'il ne faut pas dire que c'est souvent une rencontre qui motive à. En l'occurrence, pour moi, ça a quand même été un rôle... le colonel a eu un rôle important puisque... il a fait la démarche de venir me voir et de me solliciter dans le cadre effectivement du projet de concert au profit des blessés et des orphelins de l'armée. Plus concrètement, s'engager comme réserviste citoyen ou même dans toute action de ce type, c'est à mon sens, au-delà de faire rayonner l'esprit de défense et l'amour de la patrie qui motive beaucoup d'entre nous, c'est d'apporter la reconnaissance que méritent ces hommes et ces femmes qui chaque jour mettent leur vie, leur temps au service de la France. C'est les remercier de nous protéger, d'assurer notre sécurité et notre vie paisible, là où d'autres connaissent la misère et le chaos. Nous ne sommes pas tous capables de faire preuve d'un tel dévouement, d'une telle abnégation. J'ai d'ailleurs moi-même voulu devenir militaire à l'âge de 19 ans. Pour les valeurs que véhicule ce métier et cette institution, malheureusement, j'ai pris peur des opérations extérieures. Trop loin, trop longue et trop dangereuse à mon sens. Alors pour moi, voilà, c'est apporter avec notre sensibilité respective et nos envies notre petite pierre à l'édifice de manière totalement bénévole et à mon sens désintéressée. Personnellement, j'ai une attache particulière pour contribuer au soutien des blessés, de leurs familles, de ceux qui restent quand leurs proches ont donné leur vie au combat. J'ai rencontré par deux fois des soldats qui souffraient de stress post-traumatique et je trouve que c'est traumatisant aussi pour nous de se rendre compte des dégâts causés par des missions. Ça perturbe beaucoup et je trouve qu'on n'en parle pas assez et qu'on se doit, nous aussi, en tant que civils, être conscients de ce que font ces gens pour nous, ces hommes et ces femmes, et prendre conscience de la mesure de ce que ça implique pour eux et que c'est grâce à eux qu'on arrive à être ce qu'on est aujourd'hui et à être tranquille dans notre vie de tous les jours.
C'est une belle leçon de vie, en quelque sorte.
Tout à fait,
notre confort. De les rencontrer, de les accompagner.
C'est vrai, c'est important parce que ce sont souvent les oubliés, parce que c'est pas forcément la priorité, sauf que ça doit en être une. En tout cas, nous, en tant que civils, on doit en avoir conscience. Et c'est important, au-delà des cérémonies nationales, des fêtes, etc., qui existent pour mettre à l'honneur nos forces de l'ordre et nos armées, il est important de savoir quel est le revers de la médaille et que voilà, notre confort, on le doit à des personnes qui sont prêtes chaque jour à donner leur vie et qui, elles, ont le courage d'aller au front pour nous. Donc c'est, voilà, c'est pas grand chose, c'est un peu de temps que l'on offre, c'est une contribution, mais qui pour moi a tout son sens.
Mon colonel, juste une petite question comme ça, combien avons-nous de réservistes sur la Côte d'Or ?
Une trentaine rattachés à la délégation militaire départementale. Je pense qu'il y en a peut-être de l'ordre d'une vingtaine rattachés au bureau des archives et réserves de l'armée de l'air et de l'espace, autre unité militaire qui emploie des réservistes citoyens, notamment pour ses missions de rayonnement. Et ensuite, M. Despine, qui est réserviste citoyen pour la gendarmerie, connaîtra peut-être le nombre de ses pairs. Je ne suis pas en mesure de vous le donner, mais il y en a un certain nombre aussi rattachés à la région de gendarmerie.
Moi, je dirais une quinzaine.
Une quinzaine,
oui. Mmh.
Merci beaucoup, mon colonel, et merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Et voici venu le temps de votre choix musical, chère madame. Et que souhaitez-vous nous faire écouter ?
Alors, j'ai choisi Eye of the Tiger pour la symbolique de cette musique et de cette chanson. Alors, pourquoi ? Parce que pour moi, c'est une musique qui est idéale dans les moments où on a un coup de blues, on a un coup de moins bien, où l'énergie nous manque. C'est une sorte de booster. À mon sens, cette chanson entraîne tous ceux qui l'écoutent et redonne espoir. Elle n'est pas synonyme de combat jusqu'à la mort ou de combat physique, comme on connaît avec Rocky, notamment, mais de combat tout simplement. Parce que malheureusement, la vie en est un. Pour beaucoup, elle n'est facile pour personne. Il faut se battre pour grandir, pour avancer, pour tenir bon et pour avoir du courage. Et je trouve que cette musique en est un beau symbole.
Et chère madame, voyez-vous, je vais vous raconter une anecdote et à tous mes invités. C'est lorsque nous avons préparé cette émission et que j'ai connu le choix de votre chanson, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous raconter cette histoire. Cette chanson résonne beaucoup en moi. Je suis fils de paysan, mes parents ont quitté cette terre il y a peu, à leur âme, je pense à eux. Et en fait, jeune adulte, au moment de la moisson, nous déléguions à un entrepreneur le travail de battage des récoltes. Et je ne ratais jamais une occasion d'être là. Et un des chauffeurs de la moissonneuse écoutait souvent Survivor dans la cabine de la moissonneuse. Et courageux que j'étais déjà à l'époque, malgré mon handicap, je trouvais qu'il ne travaillait pas bien, alors je prenais sa place à la conduite de l'engin. Pourquoi ? Ben, sur un ou deux tours dans le champ, avec l'autorité naturelle qui me caractérise, et devant mes proches et le chauffeur qui, j'avoue, était médusé. Mais ça marchait, et je m'étais surpassé pour aller plus haut, toujours plus fort, et surtout pour veiller au grain et à ce que la récolte soit réussie. Mon colonel, vous évoquez également l'importance d'autres partenaires dans le fonctionnement de votre organisme, la DMD, notamment celui de professeurs investis dans l'enseignement de la défense à travers le dispositif des classes défense. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces classes défense ?
Avec plaisir, il s'agit d'un partenariat entre une classe et une unité militaire. Dans le département, on en trouve exclusivement en collège ou lycée, mais elles peuvent être aussi déployées dans le primaire. Cette classe s'incarne concrètement à travers des temps de rencontres et d'échanges entre les élèves et les militaires répartis tout au long de l'année. D'autres activités, comme des voyages mémoriels, peuvent également être organisées. Les classes défense répondent à une volonté partagée de transmettre à notre jeunesse des repères, des savoirs, des valeurs, pour les aider à construire leur capacité d'engagement et de résilience. Elles sont au nombre de 21 pour le département de la Côte d'Or, mais Philippe Despine peut certainement nous en dire davantage.
Alors Philippe, racontez-nous un petit peu votre rôle et ce que vous faites dans cette classe défense au lycée Les Arcades.
Oui, avec plaisir. Je rappellerai tout d'abord que cette classe défense est née de la volonté de notre chef d'établissement du lycée groupe Les Arcades, Madame Laure, que cette classe défense est constituée cette année de 31 élèves d'une classe de terminale générale, de 5 élèves de terminale technologique. Ce sont des élèves qui ont déjà un certain sens de l'engagement pour déjà avoir manifesté leur volonté d'être intégrés dans cette classe. Il y a parmi ces élèves un élève qui participe déjà depuis le mois de septembre à l'opération Sentinelle. Et puis on a des élèves qui sont soit élèves sportifs, soit élèves sportifs, sportifs de haut niveau. Alors oui, comme disait le colonel Étienne, hein, une classe défense, c'est pas une simple option, c'est pas seulement une activité ponctuelle. C'est un véritable partenariat éducatif qui est inscrit donc dans une convention officielle qui permet aux élèves de découvrir la défense nationale de manière concrète, citoyenne et ouverte. Alors c'est un dispositif qui renforce le lien entre l'école, les institutions et la société, tout en donnant aux jeunes une meilleure compréhension du monde dans lequel ils vivent. Alors plus concrètement, concernant les activités tout au long de l'année, je crois que le plus simple, c'est d'évoquer notre programme de cette année.
Alors, pouvez-vous nous citer deux ou trois actions importantes que vous allez mener ?
Oh, bien plus.
Bien plus, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci.
À partir du premier trimestre, donc, les élèves sont amenés à travailler par petits groupes sur des appels à projets de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, des MCA. Cette année, deux grands thèmes leur sont proposés. Jeunesse en guerre de 1870 à nos jours et ville en guerre à l'époque contemporaine. Alors ils peuvent travailler également sur le thème du concours national de la résistance et de la déportation. Alors cette année, le thème choisi, c'est la fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi, survivre, témoigner et juger. Mmh. Alors à côté de cela, ils suivent également un certain nombre de conférences données par le lieutenant-colonel Étienne. La première concerne les enjeux de la défense autour de deux questions. Quelles sont les menaces actuelles et futures et comment se défendre ? Une seconde porte sur le sens des commémorations en France. Événements célébrés, pourquoi les célèbre-t-on, pourquoi et comment ? Ils vont avoir aussi la possibilité de faire des rencontres humaines importantes. Par exemple, bientôt, ils vont rencontrer donc une femme médecin aux armées et puis également des hommes et des femmes de l'opération Sentinelle.
Est-ce que vous allez faire un petit tour par le 511e régiment du train aussi ?
Ce n'est pas prévu pour l'instant,
mais
on peut s'adapter, il n'y a pas de souci. Ils auront également l'occasion de participer à ce que j'ai appelé moi une table ronde sur un thème particulier, le général d'armée Henri Giraud, peut-être un peu connu des Dijonnais, puisqu'il a un monument qui commémore sa carrière. Et cette table ronde donc, est organisée par la Fondation de l'Alde de Tassigny et c'est son petit-fils, le vice-amiral d'escadre Hervé Giraud, qui viendra parler donc, de cette figure qui est son grand-père. Alors jusqu'à présent, ils ont déjà participé également à une première cérémonie commémorative, celle du 107e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, de la victoire et de la paix et d'hommage à tous les morts pour la France. Il est possible que nous ne participions pas à la cérémonie du 8 mai, car avec le lycée, nous sommes en train de réfléchir à une possible participation des élèves au Spartan Race de Carcassonne. Alors, ce sont des courses d'obstacles sur des distances bien définies, 5, 10 ou 21 km. La distance se fait en courant ou en marchant, comportant plusieurs obstacles type militaire. Ce projet s'adresse bien sûr à tous les élèves de la classe défense, mais c'est aussi une manière de faire jouer la cohésion entre les élèves sportifs et les élèves non sportifs. Et dernièrement, bah écoutez, nous sommes allés à Paris visiter le musée de l'armée à l'hôtel des Invalides et du musée national de la marine. Et pour terminer, et toujours à l'initiative de notre chef d'établissement, Madame Laure, il sera proposé aux volontaires de participer cette année au 66e pèlerinage militaire international de Lourdes. Voilà.
Qui est prévu le 21 mai 2026.
Oui, si vous le dites, vous avez sûrement raison.
Je vous le dis de source sûre. Merci beaucoup Philippe Despine pour ce témoignage sur la classe défense du lycée Les Arcades qui effectivement a été souhaité et voulu par Madame Laure, notre chef d'établissement, puisque moi je fais partie du même groupe scolaire. À travers vos témoignages passionnants, on voit bien le fil directeur de l'engagement, ce don de soi qui vous relie et fait la force de votre collectif. Alors mon colonel, vous évoquiez avec moi tout à l'heure les spécificités de l'engagement militaire. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'engagement ?
Je vais surtout vous parler de l'engagement militaire.
Tout à fait.
Celui qui est le mien.
Bien sûr.
En préambule, je voudrais dire qu'il existe de très multiples formes d'engagement au profit des autres. Des engagements qui sont totalement bénévoles, comme celui des réservistes citoyens, et qui sont pour moi véritablement inspirants. Mais l'engagement militaire me paraît exceptionnel, au sens étymologique du terme, parce qu'il intègre, je dirais structurellement, l'éventualité du don de sa vie. Le statut militaire précise que la nation peut exiger d'un militaire qu'il remplisse sa mission jusqu'au sacrifice volontaire de sa propre vie. Nous faisons réellement nôtre cette réalité pour y être parfois confrontés au cours de nos opérations. Au-delà, ce qui me paraît plus important encore que le possible don de sa propre vie, c'est l'obligation de devoir donner la mort sur ordre. Saint Jean nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour autrui. Je pense aussi qu'il n'y a pas de plus grande responsabilité que de donner la mort de son propre chef ou par ordre interposé. C'est tellement inhumain de tuer un de ses semblables qu'un soldat ne peut s'y résoudre qu'au nom d'une cause supérieure et en s'exposant lui-même à la mort en retour. Je vois dans cette dualité recevoir la mort et la donner comme une symétrie déontologique et le fondement de l'engagement militaire, en tout cas du mien.
Merci pour ce témoignage fort, mon colonel. Commandant Thierry, quelle est votre vision de l'engagement ?
Quand on s'engage en tant que réserviste opérationnel, on sait qu'on a une part de risque. On ne la banalise jamais et on apprend à la gérer. Mais ce qui compte avant tout, c'est la mission, la confiance entre les camarades et le sens du service. Dans la réserve, mais aussi dans l'armée d'active, on partage des expériences intenses, on crée des liens solides, on apprend à se faire confiance et à travailler ensemble, quelles que soient nos origines ou nos parcours. Pour ma part, je me suis engagé comme réserviste par envie de m'investir concrètement au service de mon pays, et cela il y a 25 ans. Et c'est tout en poursuivant une activité professionnelle. C'est un engagement exigeant qui demande disponibilité et rigueur, mais aussi qui est très enrichissant humainement car il permet d'agir concrètement pour la protection de la population et l'intérêt général.
Merci beaucoup, mon commandant. Madame Expria, que souhaitez-vous nous dire sur l'engagement ? Qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous ?
C'est avant tout croire en certaines causes, avoir une philosophie de vie qui ne fait passer l'autre avant soi. À mon sens, et du coup l'engagement c'est concrétiser cette philosophie par des actes, par des faits qui de manière désintéressée profitent à l'autre plus qu'à soi.
Merci beaucoup, et monsieur Despine, quelle est votre vision de l'engagement, alors j'allais dire en votre qualité d'homme bien sûr et de philosophe?
C'est une question difficile. Ben, écoutez, l'engagement tel que je le conçois, ça n'est jamais un simple geste individuel. C'est un mouvement vers autrui, un acte par lequel nous nous mettons au service d'une valeur qui nous dépasse. C'est cela qui, à mon sens, donne du sens à l'existence. La conviction que nos actions s'inscrivent dans une continuité plus vaste que nous, mais aussi et avant tout dans un horizon de sens partagé. Traditionnellement, les valeurs dans lesquelles nous croyons, comme le bien, la justice, la vérité, le beau, ne vivent pas seulement dans nos consciences individuelles. Elles sont aussi et avant tout portées, incarnées, relayées par des institutions nationales. Ces mêmes institutions doivent leur donner une forme, une durée dans le temps. Non pas seulement une légalité, mais bel et bien une légitimité. Or, que devient l'engagement lorsque nos institutions ne sont plus à la hauteur de leur mission, lorsqu'elles semblent trahir ou abandonner l'idéal qu'elles étaient censées défendre? Ou bien lorsque l'on nous demande de servir des valeurs qui n'en sont pas? Eh bien, c'est là que naît mon trouble, à la fois comme homme, comme père de famille et comme professeur de philosophie. Servir un idéal est une tâche exigeante. Aucun de nous n'est toujours à la hauteur de ce qu'il voudrait être. Nous trébuchons, nous renonçons parfois, nous composons avec nos limites et avec le réel, et cette fragilité fait partie de la condition humaine. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est moins la faiblesse des individus que celle de la société elle-même. Que reste-t-il de nos engagements lorsque le cadre collectif ne porte plus un idéal civilisationnel, mais semble parfois nous orienter vers un contre-idéal? Autrement dit, puisque vous m'avez posé la question, hein, en tant qu'homme et en tant que philosophe, comment continuer à servir ce qui est juste quand le monde nous demande de servir ce qui ne l'est plus? Comment maintenir la fidélité à une valeur lorsque l'environnement institutionnel qui devrait la soutenir la contredit ou l'affaiblit?
Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que nous avons tendance à vivre quand même aujourd'hui dans une société de plus en plus individualiste. Votre altruisme à tous et à toutes, moi, m'a vraiment fait grand plaisir. Et je pense que nos auditeurs et nos auditrices auront plaisir à entendre cela, le fait qu'on puisse s'engager pour les autres dans un moment d'égoïsme forcené où on est dans le chacun pour soi. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Je vais vous laisser la parole, cher Philippe Despine, puisque vous allez nous proposer votre choix musical à présent.
Alors j'ai choisi le final de Hakant et ses fils de Jean-Philippe Rameau pour plusieurs raisons. Jean-Philippe Rameau est né à Dijon. Le roi Louis XV lui avait fait commande du morceau pour célébrer la naissance de son petit-fils, le duc de Bourgogne, Louis-Joseph Xavier François de France. Eh bien, hormis cette attache géographique, je trouve que cette pastorale est festive et lumineuse. Elle exalte la joie et surtout d'une manière toute publique. Et c'est un rappel évocateur aussi de l'ordre et de la grandeur tels que nous pouvions les connaître sous l'Ancien Régime.
Thank you.
Mesdames et messieurs, un dernier mot de conclusion et on va commencer par le colonel Étienne.
Eh bien, cher Frédéric, je voudrais pour conclure souligner une caractéristique de l'engagement. C'est une magnifique aventure à portée de tous. Pas besoin d'autorisation, pas besoin de budget, pas besoin de matériel ou d'équipement coûteux. Même pas besoin de dons particuliers. Si on préfère faire quelque chose plutôt que d'être quelqu'un, je crois que c'est une citation de Myrna Loy, on peut à travers son propre engagement avoir une vie qui soit véritablement une aventure, au sens noble du terme, haletante, risquée, utile et belle. Je le souhaite à tous.
Merci beaucoup. Commandant Thierry ?
Oui, bien sûr, Frédéric. Pour conclure, je dirais que s'engager comme réserviste, c'est un défi. Un défi parce qu'il faut concilier les missions militaires avec sa vie civile et sa vie professionnelle, et surtout parce qu'il faut agir avec responsabilité au service des autres. Je profite pour remercier mon employeur, mais surtout mon épouse, de me laisser du temps pour mon engagement. Parce qu'être réserviste, c'est tisser des liens qui durent bien au-delà de l'uniforme. Ces liens que l'on appelle, entre nous, la camaraderie. Et ce sera mon mot de la fin.
Merci beaucoup. Ophélie, quel est votre mot de la fin ?
Déjà, je tenais à remercier vos auditeurs pour leur écoute et en espérant que ces quelques témoignages inspirent et motivent tout un chacun. C'est accessible à tous et c'est possible.
Merci beaucoup. Et notre cher Philippe Despine, un petit mot de conclusion ?
Oui, Frédéric. Eh bien là, à l'instant, en écoutant tous les invités, là, vous avez eu la gentillesse de nous réunir, eh bien, je me disais que précisément l'engagement peut être un moyen de redonner à la société, aux individus, donc de retrouver des liens.
Et le sens du collectif. Ainsi se termine ce troisième numéro, j'ai rendez-vous avec vous. Je voudrais sincèrement vous remercier du fond du cœur de votre participation et du temps que vous avez bien voulu consacrer à cette rencontre autour de belles valeurs, des valeurs partagées, et qu'il convient de continuer inlassablement de faire vivre dans un monde qui tend parfois à les oublier. Au prochain numéro, place à l'artisanat d'art et à l'accordéon. Et comme le dirait si bien le colonel Étienne, sursum corda, élevons nos cœurs, et à très vite. Au revoir.